this is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong?
Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. You happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in a particular faith because you're not a Muslim, you're not a Hindu. Why aren't you a Hindu? Because you happen to have been brought up in America, not in India. If you'd been brought up in India, you'd be a Hindu. If you were brought up in Denmark in the time of the Vikings, you'd be believing in Wotan and Thor. If you were brought up in classical Greece, you'd be believing in Zeus. If you were brought up in Central Africa, you'd be believing in the great Juju up the mountain. I mean, there's no particular reason to pick on the Judeo-Christian God in which, by the sheerest accident, you happen to have been brought up and ask me the question, what if I'm wrong? What if you're wrong about the great Juju at the bottom of the sea?
Aujourd'hui, je vais accueillir sur le balado scepticisme scientifique Pascal Jouxtel, qui est l'auteur de l'ouvrage « Comment les systèmes pondent, une introduction à la mémétique ». Il est aussi membre de la Société francophone de mémétique. Précédemment, sur le balado, dans l'épisode 9, j'avais déjà interviewé Charles Mougel, pour une introduction, un épisode d'introduction à la mémétique. Donc, si ce sujet vous intéresse et que vous n'avez pas écouté l'épisode 9, je vous invite à aller dans les archives balado et écouter l'épisode avec Charles Mougel, lui aussi membre de la Société francophone de mémétique. Aujourd'hui, on va surtout parler du livre donc « Comment les systèmes pondent » et du concept de Pascal Jouxtel, qui est un concept original, donc il l'a proposé dans son ouvrage, et qui est le concept de solution. La première chose que je lui ai demandé est de nous parler de la fondation de la Société francophone de mémétique, et comment il en est venu à écrire le livre « Comment les systèmes pondent ».
A fondé la Société francophone de mémétique avec deux personnages qui sont les éditeurs de la revue Automate Intelligent, la revue en ligne Automate Intelligent. Et ça faisait assez longtemps que ils s'intéressaient à la mémétique. On avait lu les mêmes livres, on avait lu Blackmore, on avait lu Aaron Lynch, Richard Brody, Howard Bloom, etc. Bien sûr, Richard Dawkins. Et puis bon, à force de se parler sur les blogs et les forums, on s'est dit, ça serait pas mal qu'on crée une espèce de structure dans le monde réel, une sorte de société savante pour les gens qui s'intéressent à la mémétique. Voilà. On a commencé à essayer de pratiquer la chose de l'intérieur, et ça me semble assez important de dire ça, parce que j'observe, je lis des choses, je lis, il y a de plus en plus d'écrits, surtout en langue française, sur la mémétique. La plupart des gens regardent la mémétique de l'extérieur. Et je pense que quand on regarde la mémétique de l'extérieur, on n'y comprend rien. Que la seule manière d'y comprendre quelque chose, c'est d'en faire soi-même. C'est-à-dire que moi, je m'aperçois que les gens qui se considèrent un petit peu comme méméticiens comprennent un peu de quoi il est question. Et ceux qui essaient d'observer la mémétique en disant « alors il y aurait une théorie qui dirait que nous serions gouvernés par des mémés ». Et ça, c'est ce qu'on peut lire dans le « Que sais-je, sociologie des tendances ».« Nous serions gouvernés par des mémés ». C'est écrit « M-E-M-E ». Si tu veux, je t'enverrai le scan du bouquin. Voilà, donc on peut pas travailler comme ça. Et donc en parlant avec Jean-Paul Bacchiaste et Christophe Jacquemin, qui étaient donc les deux éditeurs d'Automate Intelligent, on s'est dit, ça serait bien d'écrire un truc. Je me suis dit, allez, j'y vais, je suis volontaire, je commence, j'écris ce bouquin. Et au bout d'un an, j'y arrivais pas, et ils m'ont dit, si tu écris pas le bouquin très vite, nous on l'écrit. Et comme je sais que Jean-Paul étant retraité et ayant une plume absolument extraordinaire, il était tout à fait capable d'écrire le bouquin en 3 mois, je me suis un petit peu motivé et j'ai écrit le bouquin en à peu près 6 à 8 mois. Mais tout simplement, enfin, les raisons d'écrire un bouquin, c'est très mystérieux, tu vois. C'est quand t'as envie de faire avancer le schmilblick, tu dis c'est une théorie qui est beaucoup trop excitante, trop prometteuse pour qu'on la laisse complètement à l'abandon. Donc tu te dis je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? J'aurais très bien pu faire des recherches dans un labo. J'aurais très bien pu me contenter de lire tout ce qui se passait, puis d'observer, de suivre l'affaire. Moi je suis un gars qui écrit parce que je suis un concepteur et un auteur, donc. Je me suis dit, la meilleure façon de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est d'écrire l'histoire de la mémétique d'une part, et puis ensuite, c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça signifie être méméticien. Donc c'est une approche par l'expérimentation directe, c'est une approche par le faire, F-A-I-R-E, plus qu'une approche d'épistémologue ou une approche de théoricien des sciences humaines, comme j'en vois beaucoup, et parfois de très bonnes. Mais voilà, mon approche, c'est plutôt d'être méméticien, d'abord, plutôt que de regarder la mémétique en disant qu'est-ce que ça pourrait être que ce truc-là, quoi.
Oui, ton ouvrage, d'ailleurs, reprend un peu la structure dont tu viens de parler. Avec la première partie, c'est une histoire de la mémétique, et la deuxième partie, c'est une contribution plus personnelle. D'où est venu ce désir d'avoir l'ouvrage avec cette contribution personnelle et pas uniquement un état des lieux de la mémétique, mais le fait que toi tu voulais faire des propositions conceptuelles qui t'étaient propres?
Je dirais que l'envie de contribuer précède la contribution. Dit autrement, j'ai écrit le bouquin en 2005 et je m'intéresse à la mémétique depuis 1984. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 20 ans que je réfléchis à la question, et que au cours de ces 20 ans, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres gens qui réfléchissaient à la question aussi, et que j'étais pas tout seul dans le monde. Tu vois? Et finalement, j'avais un certain nombre de questions qui me travaillaient depuis longtemps. La première de ces questions était: qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Comment peut-on être soi-même? Deuxième question: comment est-ce que les influences qu'on reçoit de l'environnement nous façonnent? L'importance de poser la question pourquoi je pense comme ça et pourquoi je fais ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi pas mal. Maintenant, pour en venir à la contribution, je vais rentrer vraiment directement et en plein milieu du sujet. Il y a un concept, c'est ce que je te disais par mail, il y a un concept qui est nouveau dans la mémétique francophone. C'est pour moi le concept sur lequel ça vaut vraiment le coup de passer du temps et de faire des recherches. C'est le concept de solution culturelle. Alors d'où ça vient la nécessité de cet objet solution? Ça vient du fait que beaucoup de gens issus des sciences humaines se trompent en considérant que les mêmes codes pour des comportements directement, c'est-à-dire que les créatures qui sont soumises à l'évolution mémétique sont des humains. Tu vois, on dit les créatures qui sont engendrées par l'évolution génétique, ce sont des plantes et des animaux. Et donc, par exemple, des humains. C'est-à-dire que le corps, le comportement physiologique et une grande partie du comportement instinctif des humains est gouverné par la biologie, par l'ADN et toute son administration. Maintenant, si on fait une extension, un élargissement de la théorie de l'évolution à des objets culturels, si on veut développer une théorie mémétique qui soit une extension à la culture de la théorie de l'évolution, alors il faut chercher des objets interacteurs qui jouent le rôle de la créature. C'est-à-dire qui joue le rôle en culture de ce que font les animaux et les plantes dans le monde biologique. C'est-à-dire que ce qui permet la pression de l'environnement sur le génome, c'est ce qu'on appelle un interacteur ou un véhicule, et cet interacteur, c'est un être vivant. Typiquement, tel comportement ou tel plumage chez un oiseau sera gouverné par le fait que il est dans un climat où il neige. Donc s'il a un plumage plus clair, il survivra mieux, etc., etc. Donc ça, c'est la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît habituellement. Ce qu'on dit nous, quand je dis nous, c'est le petit noyau de la société francophone de mémétique, on dit que l'objet, ou plutôt la créature, l'analogue de la créature dont on doit se servir et qui peut donner un sens à l'extension de la théorie de l'évolution, c'est une solution culturelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par une solution culturelle ? J'entends quelque chose qui se passe entre les gens et qui amène d'une situation A à une situation B. C'est-à-dire que dans une situation, par exemple, je sais pas, des gens réunis dans une pièce ou des gens dans la société, il y a un potentiel d'évolution de la situation. C'est-à-dire que pratiquement aucune situation n'est stable. Dans une situation, il y a toujours du désir, il y a toujours du conflit potentiel, il y a toujours une dynamique, il y a toujours une tension dans une situation. Et à certains moments, ces tensions se déclenchent et se dépotentialisent, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la situation a accumulé suffisamment de potentiel de désir, de transformation, pour que, puite, il y ait quelque chose qui se déclenche et qui est une espèce de conduit événementiel qui libère la tension de la situation. Alors, cette chose qui se produit et qui libère la tension de la situation, je l'appelle une solution. Je vais donner un exemple très simple. Tu as des personnes qui ont faim, des collègues de travail, par exemple, il est midi et demi, ils ont faim, il y a un potentiel de désir, un potentiel d'appétit, transformation de la situation. Ils ont envie de continuer à se parler, ils ont un travail à faire ensemble et ils ont faim. Donc ça crée un potentiel d'évolution de la situation parce que dans le bureau où ils se trouvent, il n'y a absolument rien à manger. Donc il y a une tension, ils ont faim, ils ont envie de rester ensemble et il n'y a rien à manger. Et ben une solution consiste à descendre au restaurant du coin et aller attraper un petit quelque chose à manger. Et ensuite, une fois que ça aura eu lieu, et ben leur désir sera satisfait, le potentiel de tension de la situation aura disparu, et après on pourra passer à autre chose. Ça, c'est une solution. Les solutions sont en compétition les unes avec les autres, parce que si dans le quartier il y a un sushi bar, un Italien qui fait des spaghettis et un McDo, eh ben les gars, quand ils vont sortir du bureau, ils vont avoir le choix entre aller au sushi bar, aller à l'Italien ou aller au McDo. Et c'est ainsi que dans un certain contexte, dans un certain environnement, les solutions sont en compétition les unes avec les autres, puisque on ne peut pas aller à la fois au même déjeuner, c'est très rare, au même déjeuner, on ne peut pas aller dans trois restaurants différents.
Oui, en préparant cette interview, je relisais donc l'article de Massimo Pigliucci. Et justement, c'est un article qui a été publié dans The Skeptical Inquirer, une revue sceptique, et il énonçait des critiques vis-à-vis de la mémétique. Et sa toute première critique, c'était justement qu'il y avait, qu'en génétique, il y avait la différence entre les gènes et les organismes, donc les réplicateurs et les interacteurs, mais qu'en mémétique, il n'y avait pas cette différence. C'était vraiment... Oui. Et justement, j'ai lu cet article au moment où je lisais, à la même période où je lisais ton livre, et j'étais vraiment surpris de voir que toi, tu avais élaboré cette idée de solution, qui est vraiment intéressante, je trouve, mais... Là, je comprends bien ton exemple, mais si on prend un autre exemple, un même classique comme la chanson « Joyeux anniversaire, Happy Birthday to You » ou un origami, la technique pour réaliser un origami, quelle serait la différence dans ces exemples-là qu'on cite, que Blackmore, par exemple, cite comme exemple de même, quelle serait la différence entre le même et la solution dans, par exemple, « Happy Birthday to You » ?
Si on considère que la solution, donc la créature, c'est des personnes réunies pour un anniversaire chantent Happy Birthday to You. Qu'est-ce qu'il y a comme mème là-dedans ? Il y a des mèmes relatifs à la signification de l'anniversaire. Il y a des mèmes relatifs à la structure de la famille. Donc, dans l'anniversaire, il y a la notion de fête. La famille, il y a la notion de être réunis, partagés, etc., etc. Et puis, il y a ensuite un petit bout de code musical et un petit bout de code textuel. Tu vois, donc on pourrait dire que, par exemple, le fait de répéter trois fois la même chose, ça a été sélectionné parce que c'est facile de se rappeler Happy Birthday to You. À la limite, quelqu'un qui ne l'a jamais entendu est capable de la mémoriser très facilement, de la chanter très facilement et donc de participer, parce que c'est une chanson qui est extrêmement facile à reprendre en chœur une fois que tu l'as entendue. Donc par exemple, le fait d'avoir trois fois ou quatre fois les mêmes paroles prononcées, ça c'est un mème. Tu vois, c'est-à-dire que si on veut rentrer finement dans la nature du code mémétique, quelques mots prononcés à l'identique, exactement comme Hari Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hari Hari, voilà. Tu vois, c'est un truc, tu l'as entendu une fois, tu t'en souviens. Enfin, déjà, c'est répété un certain nombre de fois dans la chanson, mais c'est un peu de la même eau, c'est-à-dire que le même dont il s'agit n'est pas Happy Birthday to You. Le même, c'est répéter quatre fois les mêmes paroles sur une mélodie quasiment identique. Voilà, là tu commences à cerner un petit peu le même. De la même façon que c'est difficile de cerner le gène qui va s'appeler, je sais pas moi, TUK27B12, et qui a pour effet de faire en sorte que la molécule poète-poète inhibe le fonctionnement de la sérotonine quand elle est placée à plus de 22 degrés centigrades. Voilà, bon, un gène, ça fonctionne comme ça. Maintenant, le fait que ça permette de digérer le lait ou bien de digérer la viande rouge et donc de s'alimenter avec des bestioles qu'on croque crues sur son chemin, ça c'est autre chose, tu vois. C'est donc ça, c'est la différence entre le code et le phénotype, c'est une longue chaîne de d'interaction, de travaux. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est clair?
Oui, ça répond à ma question. La réaction que j'ai un peu, c'est est-ce que ça se rapproche pas finalement du monde des idées platoniciens avec les idées qui seraient les mêmes, qui existeraient quelque part, et les idées en acte, quoi, actualisées, comme on a l'idée de la beauté, et puis après on a la statue où la beauté existe. Est-ce que finalement c'est juste pas une nouvelle version du monde des idées de Platon?
Je ne pense pas. Je pense pas parce que aucun méméticien ne dit que les idées existent en elles-mêmes ou que les mêmes existent en eux-mêmes. Nous, on a une façon de définir les mêmes. Déjà, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, on reconnaît un méméticien, quelqu'un qui fait des recherches en mémétique, au fait que il a pas beaucoup d'intérêt pour la question de savoir si les mêmes existent et à quoi ils ressemblent. Et ça, c'est assez particulier. C'est en gros à ça que tu reconnais un méméticien d'un non-méméticien. Un non-méméticien a le souci de savoir qu'est-ce que c'est qu'un mème. Alors maintenant, par rapport aux idées de Platon, nous on a une manière de définir les mèmes qui est ce qui nous permet de reconnaître la reproduction d'un phénomène culturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une définition d'un objet qui n'existe pas justement en soi a priori, mais qui existe parce qu'il nous aide à percevoir la reproduction. C'est-à-dire que dans la construction de la société, il y a un phénomène qui joue un rôle important dans la construction de la société, qui est le phénomène de répétition des choses, de répétition et de reconnaissance. C'est-à-dire que, par exemple, le repas, c'est quelque chose qui structure énormément. On va dire que je pense qu'à bouffer, parce que la plupart de mes exemples tournent autour du repas. Donc le repas, c'est quelque chose qui structure énormément la société. Et en fait, ce qui nous permet de dire qu'un repas est un repas, c'est parce qu'on le compare à d'autres repas qu'on a déjà vécu. Une autre manière de dire ça, c'est que les lois, par exemple, émergent du récit. C'est-à-dire que il y a un récit, et ce récit devient loi à partir de quand ? À partir du moment où il y a suffisamment de gens qui se plaignent que, par exemple, on leur a volé des pommes, par exemple. Tu vois, il y a des tas de gens qui se plaignent qu'on vole des pommes. Alors, au bout d'un moment, la répétition du récit finit par émergence, par faire sécréter quelque chose qui est de même nature que le récit, mais qui monte au-dessus de l'instanciation du récit, qui monte dans une espèce d'abstraction qui s'appelle la loi et qui dit il est interdit de voler des pommes et celui qui vole une pomme, on lui coupera la main. Tu vois ? C'est-à-dire que moi je vois plutôt les idées et les mèmes comme quelque chose qui est d'une part émergent par rapport à la répétition naturelle, spontanée des solutions, et en plus de ça, ce que je voulais dire d'autre, émergent, et puis en même temps, pour moi, l'existence des mèmes est assez difficilement dissociable de l'appareil neurologique individuel et collectif qui nous permet de les penser. C'est-à-dire que, en gros, j'ai trop étudié les neurosciences maintenant pour accorder encore de la pertinence à cette histoire de monde des idées. En fait, en tant que méméticien, je me réclame plutôt de Spinoza ou de Damasio ou de Changeux, hein, plus proche de nous, en disant il se produit des choses, il se produit des phénomènes, des résonances dans nos cerveaux, des résonances entre nos cerveaux, il se produit des phénomènes cognitifs, des phénomènes de pensée en nous et entre nous, et sur cette espèce de tissu, dans cette espèce de tissu, il pousse des choses. Et il y a des créatures qui vivent dans ce tissu-là. Alors c'est un saut conceptuel qui est assez important à réaliser, mais la distinction qu'il y a entre créatures biologiques et créatures mémétiques, elle se fait à ce niveau-là. C'est des espèces de couches. Alors après, il y a des débats d'experts. Je te dis juste comme ça pour mais c'est ça, là on repartirait sur autre chose. C'est, il y a une voix qui dit au fil de l'histoire il y a eu différents étages de réplicateurs minéral à un moment, réplicateurs biologiques à un moment, réplicateurs informationnels, socio-informationnels à un moment, peut-être d'autres réplicateurs qui viendront après, peut-être d'autres qui sont venus avant. Je pense que la structure de la matière est une forme de réplicateur antérieur au réplicateur minéral. Bon, ça c'est une option qu'on pourrait dire mainstream, dawkinsienne, etc., etc. Mais il y a aussi une option non dawkinsienne qui est celle de Howard Bloom, par exemple, qui dit le jeu entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire le cerveau global, entre guillemets, et la réciprocité d'influence entre l'individuel et le collectif, entre le un et le plusieurs, a toujours été. Et voilà. Et donc ça, c'est une approche. En gros, il dit, il y a eu des mèmes dès le début, dès le moment où il y a eu des molécules, dès le moment où il y a eu une matière, etc. Il a commencé à y avoir, parce que Bloom, lui, il voit plutôt les mèmes comme des forces de cohésion du collectif. C'est pas ma vision à moi. C'est la vision bloomienne, mais c'est pas ma vision à moi.
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que, enfin, je voulais un peu aborder juste la question de la métaphore finalement. Est-ce que la mémétique s'est jamais utilisée, bon, la théorie génétique, comme simplement une métaphore qui aide à penser, mais qui n'est jamais qu'une métaphore?
Ouais, c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, je vais inverser un petit peu la proposition. Je travaille dans le conseil. Donc, conseil aux entreprises, conseil en management, conseil en évolution comportementale dans les entreprises. Et alors, depuis un certain temps, tout le monde parle du génome de l'entreprise. On dit, c'est pas dans les gènes de l'entreprise. Quand on parle de culture d'entreprise, on dit, oui, ça c'est pas dans nos gènes. Est-ce que c'est dans les gènes de Michelin? Est-ce que c'est dans les gènes de la SNCF ou de la BNP, etc.? Et de temps en temps, je leur dis, ok, quand vous parlez de gènes, pour l'entreprise, c'est une métaphore. Quand vous parlez de mèmes qui gouvernent les pratiques culturelles les plus fréquemment admises dans une entreprise, ça n'est pas une métaphore. Vous êtes en train de parler du vrai truc. Parce qu'il y a effectivement, de mon point de vue, des mèmes qui codent pour les pratiques, etc., etc. Donc moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que quand on emploie le vocabulaire de la biologie pour dire, par exemple, telle solution va tuer telle autre. Par exemple, telle solution est prédatrice ou telle solution se nourrit de. À ce moment-là, là, on est dans la métaphore. Mais quand on essaie de se dépouiller de ça et qu'on essaie de décrire les choses convenablement en essayant d'être le plus près possible de ce qui se passe, à ce moment-là, on n'est plus dans le domaine de la métaphore, mais on est dans le domaine de l'ouverture scientifique, c'est-à-dire plus de l'extension que de la métaphore. Un exemple, de quoi se nourrissent les solutions ? On voit que les solutions ont besoin du temps de cerveau des gens, elles ont besoin de l'attention des gens. Prenons n'importe quelle solution de type une conversation, par exemple un sujet de conversation. S'il n'y a pas d'attention, si un sujet de conversation, typiquement Jean Sarkozy à l'EHPAD, si un sujet de conversation cesse d'intéresser et d'attraper du temps de cerveau dans la sphère sociale, eh ben, finalement ces solutions finissent par s'éteindre. C'est-à-dire que la solution commenter la nomination de Jean Sarkozy à l'EHPAD, quand elle n'attrapera plus assez de temps de cerveau, elle disparaîtra. Donc on peut dire, cette solution se nourrit du temps de cerveau. Si je dis, la solution est un petit animal qui se nourrit du temps de cerveau, et les mêmes sont des petits grignoteurs ou des virus mentaux qui contaminent votre cerveau, etc., etc. Là, je suis dans la métaphore. Et c'est pour ça que nous autres, on essaie de se battre contre nous-mêmes, contre nos propres réflexes, parce que ce sont des facilités pour essayer de ne éviter au maximum le langage métaphorique. Mais on nous réclame du langage métaphorique parce que c'est ça qui permet aux gens de se reconnecter. Donc c'est à des fins de communication et à des fins de partage qu'on utilise un langage métaphorique. Mais au fond, pour moi, il n'a jamais. Enfin, en plus, les métaphores, je trouve ça très puissant et très utile, quoi, et très beau en plus. Mais il n'est pas réellement question d'analogie. Pour moi, il est plus question d'une extension de la théorie évolutionniste.
L'année dernière, je lisais un manuel qui présentait la psychologie de l'évolution, psychologie évolutionniste, donc, toi tu sais ce que c'est, mais je veux dire, les théories qui expliquent le comportement humain en faisant appel à l'homme des cavernes, enfin à cette époque-là, qui dit, en fonction de ce qui s'est produit à cette époque-là, maintenant on a un impact, par exemple, parce que le comportement à cette époque-là était adaptatif, il a été sélectionné par l'évolution. Et dans cet ouvrage-là, il présentait la même éthique, il y avait un chapitre consacré, ou même un pas, même moins qu'un chapitre consacré à la mémétique, et l'auteur américain disait la mémétique c'est un sous-genre, un sous-type de la psychologie évolutionniste, une sorte de spécialisation, une sous-théorie de la psychologie évolutionniste. Toi, dans ton livre, tu défends plutôt l'idée que la mémétique est une sorte de champ interdisciplinaire qui regroupe énormément de choses. Donc, est-ce que tu peux.
Oui.
Réagir là.
Oui, absolument. Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est clair que la mimétique est une science de couloir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pignon sur rue, et de fait, elle est ouverte à tous ceux qui veulent s'y intéresser. Mais pour l'instant, il n'y a pas de chaire de mimétique dans les universités, etc., etc., parce que en fait, pour qu'une chose soit enseignée dans une fac, soit fasse l'objet de publications, etc., il faut que ça ait déjà un nom, il faut que ça soit déjà structuré. Et en cela, je trouve que notre société, et disons sa partie scientifique, souffre d'une épouvantable déformation par analogie avec le business de l'art, avec le business, la consommation tout court. On a l'impression que la mémétique existe. Si elle existe, ça veut dire qu'on devrait pouvoir cliquer sur Google, sur Wikipédia, aller dans n'importe quelle librairie et disposer à l'instant même de tout l'état des lieux de la pensée mémétique afin de pouvoir la juger au pire ou au mieux afin de pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que tous les gens qui parlent, c'est ce que je disais au tout début de notre entretien, tous les gens qui parlent de la mémétique de l'extérieur la traitent comme s'il s'agissait de la mécanique quantique ou d'un truc qui existe depuis le 19e siècle, qui a été déjà abondamment étudié, qui a fait l'objet de millions d'heures de recherche, d'investissement, de crédit, etc. Non, ça n'est pas le cas. Je prétends que de tout ce qui se pense d'intelligent en mémétique aujourd'hui, il y en a à peu près un millième qui est écrit et qui est accessible. Il y a des tas de choses qui sont manquantes dans la mémétique, dans la théorie mémétique. Si on la regarde telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est accessible à travers les écrits, les articles, etc., il y a énormément de trous. Mais ces trous sont aujourd'hui remplis par les recherches non encore écrites d'un maximum de gens et par des choses qui sont encore dans les conversations, qui sont encore dans les blogs ou qui sont encore dans les têtes et qui sont encore pas vraiment formulées. Comme cette histoire de solution dont on a parlé tout à l'heure, sur laquelle je travaille, j'ai pas encore suffisamment écrit, rédigé, affiné. On n'arrête pas de le faire. On a eu un colloque là avec des psys à Lyon. Il va y avoir, je t'ai envoyé un petit extrait, je crois, du
oui,
truc.
Oui.
Un compte-rendu qui va dire de manière assez précise qu'est-ce qu'on entend par solution. À partir du moment où on aura développé cette thèse selon laquelle on peut considérer l'objet solution culturelle comme un objet exploratoire pertinent pour l'évolution culturelle, là on commencera à avoir quelque chose. Maintenant, je vais citer un exemple tout à fait caractéristique. Un chercheur français qui s'appelle Dominique Guillot, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « La mémétique en question », qui pose un certain nombre de questions vachement pertinentes sur la mémétique, que lui considère totalement de l'extérieur, comme tout d'ailleurs, parce qu'il considère tout de l'extérieur. Et alors je conteste pas la validité de son travail, parce que je sais qu'au fond de lui, il essaye de faire une place à la mémétique à l'intérieur de l'académie. Et je sais qu'il se bat pour ça, donc je le respecte énormément pour ça. Mais je dois quand même observer que sur 10 questions, sur 10 points sur lesquels il dit « la mémétique n'apporte pas de réponse », j'ai apporté moi des réponses dans comment les systèmes pondent, et visiblement, soit il n'a pas lu comment les systèmes pondent, soit il fait semblant de ne pas l'avoir lu, c'est-à-dire qu'il ignore consciemment ou inconsciemment un travail dans lequel j'ai apporté des réponses à peu près une sur deux des questions qu'il pose, il y a maintenant 4 ans, et je continue à travailler sur ça. Et on pourrait dire que, par malheur, il est passé à côté de cet ouvrage. Alors que bon, quand on tape mémétique sur Google, c'est quand même assez difficile de passer à côté de comment les systèmes pondent. Et que, en plus, Dominique Guillot a publié un ouvrage aux éditions Le Pommier dans la même collection. Une collection qui compte 4 ouvrages. Donc quand on est 4 auteurs à avoir publié dans une même collection, c'est quand même assez difficile d'ignorer les bouquins des autres, quoi. Et donc, s'il pose des questions alors qu'il sait que les réponses à ces questions se trouvent dans un bouquin et qu'il n'en parle pas, il y a quelque chose qui soit relève d'une stratégie, bizarre, soit alors c'est de la mauvaise foi.
Puisqu'on en est à parler du statut de la discipline, il n'y a pas pour l'instant de revue scientifique à ma connaissance consacrée à la mémétique. Donc ça, c'est un peu ma première question. Pour comment peut-on essayer de faire une discipline scientifique s'il n'y a pas de revue, même virtuelle maintenant, il y a pas mal de revues virtuelles, de revues scientifiques publiées uniquement sur Internet. Ça, c'est la première partie. Et puis, à Richard Dawkins, bon, il est le créateur du concept de mème. Mais lui-même, après la publication donc, de son ouvrage dans les années 70, il semble avoir délaissé le champ de la mémétique, ou il n'en parle jamais. Comment est-ce que tu expliques un peu le fait que Richard Dawkins, qui est pourtant le créateur du concept de mème, semble ne pas porter un grand intérêt à la mémétique?
pas, parce que ça peut rien lui rapporter. Ça peut absolument rien lui rapporter. Il a fait avec un petit paragraphe dans un chapitre d'un de ses bouquins qui est par ailleurs un des plus grands best-sellers de la vulgarisation scientifique. C'est le seul bouquin que tu trouves en traduction à la librairie du Hall F de Roissy, Charles de Gaulle. Donc c'est vraiment un record. Et donc avec ça, il a réussi à poser un landmark tel que plus personne depuis ne peut prononcer le mot mémétique ou le mot mème sans prononcer le mot Dawkins. Le nom de Dawkins. Je vois pas pourquoi il se ferait chier à travailler plus la question.
Ok.
Il a déjà préempté tous les royalties, tous les droits d'auteur, tous les crédits parce que il a été le père du nom, tu vois. Donc franchement, hein, tout ce qu'on peut faire de mieux avec Dawkins, c'est le tuer, parce que tu vois, comment on tue le père.
Quid de la revue scientifique alors?
Alors, revue scientifique, pour moi, c'est, enfin, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu le JOMEMIT, Journal of Memetics, qui a fonctionné dans le monde anglo-saxon. Ils ont essayé de faire des trucs, ils n'y sont pas arrivés. Je sais pas trop bien pourquoi, mais je sais pas trop dire pourquoi ça n'a pas marché. J'avoue que je m'en tape un petit peu, quoi. Il y a un autre truc qui s'appelle JAS, J-A-3-S, qui c'est le journal de l'association pour la simulation des systèmes sociaux, un truc comme ça, qui publie pas mal d'articles de mémétique. Puis sinon, bon, le site de la SFM procure quelques trucs, mais en fait, je pense que c'est encore lié à cette histoire de micro-monde, tu vois. Il y a des revues scientifiques qui sont très généralistes quand même sur tu vois, comme pour la science, ou des revues que j'aime bien moi, comme Sciences Humaines, ou bien Cerveau et Psycho, qui publient des choses assez originales, assez nouvelles. Je t'avoue que c'est franchement, il faudrait interroger quelqu'un d'autre sur ce sujet, parce que c'est pas un truc qui me touche. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas te dire pourquoi.
Oui, parce qu'avant tu disais, ben oui, là, les gens ne savent pas accéder à tout ce qui se fait en mémétique parce que c'est pas publié, c'est dans la tête des gens, c'est en projet de recherche, etc. Mais en même temps, quand j'entends ça, je me dis, ben alors, il faudrait essayer de publier tout ce matériel et que les gens puissent y avoir accès.
Alors moi, je vais te dire le fond de ma pensée. Je pense que c'est une question de temps de cerveau. Pour l'instant, les méméticiens sont tous, à l'exception de quelques retraités, ce sont tous des gens qui bossent ailleurs, donc qui font ça un peu en amateur. Si tu veux faire un travail sérieux, tu vois, vraiment sérieux, qui puisse faire l'objet d'une publication, il faut s'y mettre à plein temps. Donc soit, regarde, tous les gens qui ont écrit sur la mémétique, ce sont des gens qui ont été hospitalisés longuement ou qui ont été entre deux jobs. Suzanne Blackmore a passé un an à l'hôpital. Howard Bloom a passé 15 ans sans pouvoir quitter sa chambre à cause d'une maladie. Richard Brody, je me souviens plus encore trop. Il y a que Aaron Lynch qui avait obtenu une fondation privée. Il avait obtenu un crédit de recherche. Il en est mort, parce que ensuite il a plus eu de crédit de recherche et il a plus réussi à continuer ses recherches, et il a fini par en crever. Donc aujourd'hui, les méméticiens font ça d'une manière bénévole. Si on voulait avoir des travaux, des expériences approfondie, sérieuse, convaincante et qui soit objet de publication, il faudrait que des étudiants, des chercheurs, des universitaires se mettent dessus à plein temps. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils fassent valider leurs approches par leurs aînés. Or, leurs aînés sont des gens qui ont quelque chose à défendre et qui, en général, n'accordent leur soutien, on va dire, leur caution, voilà, n'accordent leur caution qu'en échange de la vampirisation du temps de cerveau de leurs étudiants pour le compte de leur propre concept. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le giron, dans l'entourage de Dan Sperber, s'il n'est pas là pour faire la promotion du concept d'épidémiologie des idées, c'est pas la peine, il peut se tirer. Tu vois, donc chacun a des trucs à défendre, a une citadelle à défendre et a des solutions à nourrir. Et tu vois, et les grands leaders dans le monde académique, les puissants leaders, ont tous des solutions à nourrir. Donc, les étudiants qui viennent autour donnent leur temps de cerveau pour nourrir les solutions qui portent la marque du puissant leader, qui portent sa signature. Tu vois? Donc, tout le temps de cerveau des petits étudiants ne sert qu'à faire monter la notoriété du cacique et du mandarin qui se trouve là. Et c'est comme ça partout, c'est comme ça au CNRS, c'est comme ça au CREA, c'est comme ça à l'EHESS, c'est comme ça dans tous les domaines où on pourrait étudier ce genre de phénomène. Voilà, donc à partir du moment où les zones de recherche se construisent comme ça, les villages de la recherche se construisent comme ça, avant d'avoir un support de presse qui fonctionne, on en est loin, quoi.
Je voudrais revenir à une question qui m'intéresse beaucoup, qui est celle de la conscience. Est-ce que tu penses que la conclusion logique de la mémétique, c'est que notre identité ou notre sens de soi n'est en finalement qu'une illusion?
Alors ça, c'est ce que soutient Suzanne.
Effectivement.
Alors, de mon point de vue, je dirais que je suis pas très éloigné de jusqu'où elle va, que je suis aussi assez influencé par les philosophies orientales, notamment par le bouddhisme, et que à ce titre-là, disons que la mémétique que j'aime est une science transhumaine, une science post-humaine, et plus qu'une science humaine. C'est-à-dire que justement le problème qu'on a à se faire admettre, c'est que il y a un cloisonnement qui est assez net entre les sciences humaines qui vouent un culte à l'homme, et les sciences naturelles qui vouent un culte à la nature. Hein. Et la mémétique ne fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne voue pas plus un culte à l'homme qu'un culte à la nature. Elle ne voue pas de culte du tout, sauf peut-être à la spontanéité de l'être. Au fait que les choses se produisent de leur propre initiative. Mais il nous arrive souvent de dire que une des dérives, quand on commence à faire de la mémétique, une des dérives est la dérive anthropocentrique. De temps en temps, on, pour se marrer entre nous, on pointe du doigt celui qui est en train de faire preuve d'anthropocentrisme et on lui fait un signe avec les doigts, on lui dit « Ouh, anthropocentriste !» Et du coup, ça nous permet de nous ramener vers une des hypothèses principale de la mémétique, le petit truc qu'on met en encadré, là, tu vois, genre ce que tout méméticien ne doit jamais oublier, c'est que nous ne sommes plus les habitants, nous sommes les maisons. C'est-à-dire que les créatures mémétiques poussent et se développent sur un tissu interhumain. Alors là où on commence à être particulièrement heureux, nous, c'est on vient de faire la connaissance dans un séminaire de neuropsychiatres lyonnais, notamment d'un neuropsychiatre tout à fait intéressant qui s'appelle Nicolas Georgiev, qui est un des chercheurs en neurosciences qui essaye aujourd'hui de réconcilier la neuropsychologie et la psychanalyse, et de faire en sorte qu'ils arrêtent entre eux de se tirer à boulet rouge sans se comprendre. Et ce que je trouve tout à fait louable. Eh bien, ce neuropsy, Nicolas Georgiev, travaille en particulier sur l'empathie et sur les fondements neurologiques de la copensée et de la co-conscience. C'est-à-dire que, alors ça va un petit peu au-delà de la théorie des neurones miroirs, mais ça dit que lorsque plusieurs personnes sont réunies, chacun, en gros, met son appareil neurologique en partage à la disposition du groupe. C'est-à-dire qu'il y a réellement des phénomènes de co-conscience et de co-pensée, et que ce qui se passe entre nous quand on est réunis, c'est effectivement la mise en résonance de plusieurs cerveaux qui, du coup, forment quelque chose qui n'est pas un cerveau unique avec plusieurs cerveaux mélangés, mais qui est beaucoup plus réellement interconnecté que simplement des cerveaux isolés qui échangeraient entre eux par un jeu d'émission de signal, réception de signal, etc. C'est-à-dire que on sort complètement de ça. On avait déjà commencé à sortir de cette théorie classique émetteur-récepteur de la communication avec les gens comme Bateson, Václavic, etc., à Palo Alto, qui avaient commencé à dire la communication, ça se fait à deux, et que on est au moment où la communication a lieu, chacun de nous est en même temps émetteur et récepteur. Et maintenant ces gars-là vont encore plus loin et ils disent sur la base des phénomènes de mise en résonance mutuelle des cerveaux, nos cerveaux fonctionnent comme des sortes d'antennes qui se mettent au diapason les uns des autres. Et du coup, il y a réellement, sur le plan neurologique, une base scientifique à la copensée. Voilà. Et donc, pour les méméticiens, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça veut dire que on est réellement fondé à considérer une sorte de psychologie transpersonnelle.
On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais spécialement dire et que j'aurais pas abordé? J'ai encore plein de questions, mais il faut limiter un peu. Je limite mes interviews à une heure. Donc,
Écoute, je crois qu'on a dit les quelques points essentiels que je voulais aborder.
Ça donne de toute façon énormément de choses à penser aux auditeurs. Et puis, évidemment, je conseille vivement ton ouvrage qui est très... Même le style est agréable à lire. Je trouve que tu as une bonne plume, c'est vraiment très intéressant. S'ils veulent en savoir plus, donc comment les systèmes pondent. Et puis, il faudra que tu reviennes sur le balade de 1C4 et pour nous en dire plus.
Avec plaisir, avec plaisir.
Are your friends telling you that your lack of a love life is because Mars isn't rising in the house of Jupiter, and that it's just like a Sagittarius to question things? Have Suzanne Summers and Jenny McCarthy become the sole source of medical advice for your mother-in-law? Have you had to argue the fact that the efficacy of coffee enemas has not been proven by science? Has the use of the evolution is just a theory argument driven you to the point of telling your co-workers to... Okay, stop using gravity then. As dealing with dowsers, arguing with anti-vaxxers, harping on homeopathists, quarreling with collations, squabbling with Scientology, and bickering with Bigfoot left you wondering, what can I do to fight the woo?
Then head on over to the James Randi Educational Foundation at www.randi.org and contribute to the Season of Reason fundraising campaign by clicking on the donate button. Every dollar you give helps fight woo the world over. Don't just get frustrated. Get involved. Donate at www.randi.org. Every channel
that I do is see. L'interview de la semaine prochaine, si tout va bien, sera une interview d'Éric Lohan, qui est le responsable de l'université populaire Alderan à Toulouse. Et cette université populaire, donc l'association Alderan, a un pôle zététique. Donc je vais lui poser des questions aussi bien sur son association et le travail de popularisation de la philosophie qu'il réalise. Et bien entendu, je lui poserai des questions sur le pôle zététique de son association. Je vais terminer cet épisode en vous passant une petite comédie musicale qu'a réalisée Brian Dunning. Brian Dunning est un peu une star du scepticisme dans le monde anglo-saxon. Il a un balado qui se nomme Skeptoid. J'en ai déjà parlé ici, je pense, mais... Donc Skeptoid qui propose des petites tranches de 5 minutes de scepticisme toutes les semaines, un format relativement court et où il aborde énormément de thèmes. C'est donc un des balados les plus populaires avec le The Skeptic's Guide to the Universe. Et il a réalisé cette petite comédie musicale, cette chanson humoristique, dans le cadre de son balado, mais c'est lui qui chante, enfin il n'est pas le seul à chanter, mais c'est lui qui a le rôle principal. Et il s'agit d'une réunion, de l'enregistrement d'une réunion extraordinaire, du nouvel ordre mondial des francs-maçons Illuminati, en espérant que vous appréciez autant que moi l'humour de Brian Dunning. D'ici là, à la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.
Ladies and gentlemen, this emergency meeting of the New World Order of Masonic Illuminati is now in session. Everyone got coffee? Good. Ladies and gentlemen, you all know why we're here. Science is in crisis. The public has discovered that faith-based knowledge works just as well, and it's a lot cheaper. Here to discuss the problem is the Crown Prince of Corporatism, the Sultan of Science, the Raja of Reason, our very own exalted Grand Illuminatus. Let's give him a warm Bohemian Grove welcome. What do you say?
Thank you, thank you. Please take your seats. I've invited you, the elite of the scientific world, from around the world, to my super secret lair for one purpose, and one purpose only. Tonight, we will address the most dangerous, the most insidious, the most drastic threat to our continued prosperity since we had to cover up the Fountain of Youth.
Where'd we hide it, anyway?
Vegas. It's outside the Bellagio.
Just down the street from the Scientology volcano at the Mirage.
The public has discovered that they don't need us, that our evidence and our research have been nothing but a smokescreen to hide our greatest secret, that our so-called science is a fraud and a cheap grab for cash. Already some amongst us have felt the consequences, forced to drive automobiles with less impressive hood ornaments. So what are we to do? What indeed? While our revenues are dwindling, our enemies rekindling, new avenues for swindling are forming in my mind. But with every plan that I produce, it seems a screw or two is loose, and though my plotting is profuse, the world's no longer blind. 100 years of record profits, foisting facts on school-age Muppets, from the bottom to the top, it's fading like a dream. With New Age crystals and ID, detox and homeopathy, they scorn our scientifically delineated scheme. And so we're screwed. Who knew the public was so shrewd? I have no choice but to conclude, though it's crude, folks, we're screwed. No doubt, we're screwed. It's put me in a nasty mood. We'll have to go to KFC or Mickey D's for food. We're screwed! The public has discovered that Big Pharma is a lie and that double-blinded testing tells a tale that's gone awry. So they turn to nature for their fix and throw some wheatgrass in the mix. There's coffee in their bag of tricks. So bid your biz goodbye. According to their God in heaven, 2 plus 2 is 9-11, both Twin Towers, Building 7, and the Pentagon. The truthers started their attack. The Bilderbergers beaten back. With no conspiracies to track, how could we carry on?
We at the military plan to wholly own the Holy Land to maximize our profits and control the oil supply. But Action News on Channel 9 said water runs your car just fine. Now Mobil's maxed its credit line. More profits kiss goodbye. We're screwed! Our latest efforts to collude provide the enemy renewed attitude. Thus, we're screwed. I'm telling you, we're screwed! Though we were glad when it debuted, our master plan was surely prematurely ballyhooed. We're screwed! Psychologists are filled with dread of psychics talking with the dead. Can't charge a dime to shrink your head. A seance works as well. We tried to hide this wondrous truth. We fought the seers, nail and tooth, employing methods most uncouth to keep our clientele.
Not so.
We're screwed.
We were so filthy, stinking rich.
Cash in those bonds that you renewed.
Now we'll be living in a ditch.
We'll have to give the boot to all the loot that we've accrued. We're screwed.
Sometimes life can be a dance of a...
So many people eat organic, immunized from poison panic. Pesticides that made them manic can't infect them now. So let's falsify nutrition labels. Just a phone call to our stables. Poison poised upon their tables kills that sacred cow. But we have other cards to play. Call up Roswell straight away. Launch our alien judgment day. And make the people beg. We'll fluoridate their food supply and spray some chemtrails in the sky. Mind control from up on high will take them down a peg. Oh, they're so screwed. They should have never made us come unglued. 'Cause now we're gonna win this feud. They've pursued. Yep, they're screwed. They're all so screwed. The psychics and the truthers and the sheeple and their brood are screwed! And if they still won't buy our con, we'll turn our new collider on. In microseconds, Earth is gone. Our vengeance takes its toll. If they won't pay us, I decree, activate the LHC. The final thing they'll never see is a giant black hole!